Mimi, tu viens, ça reprend.
Quoi, qu'est-ce qui reprend?
L'émission, la JT du local.
Ah oui, on est déjà lundi. Jeune et solidaire, je n'aime pas du tout cette représentation d'une jeunesse passive et figée face aux enjeux actuels. Nos invités d'aujourd'hui vont d'ailleurs nous le prouver. À mes côtés aujourd'hui dans l'agité du local, Diaoumba Diaby et Diaraï Touré. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Donc vous êtes présidente et vice-présidente de l'association Les Étoilés Solidaires, une association humanitaire créée en 2023 pour venir en aide aux populations de Guinée-Conakry. On en parle ensemble dans quelques instants. Merci d'être avec nous. Il y a également à mes côtés aujourd'hui Lucie. Lucie, bonjour.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, tu nous emmènes avec toi dans la programmation de Ma Région Virtuose qui a eu lieu donc la semaine prochaine. La semaine dernière, tu étais en direct d'ailleurs ce samedi pour une émission spéciale.
Tout
et
à
donc
fait.
Aujourd'hui, tu nous emmènes dans un TER avec Ma Région Virtuose. On écoute ça dans la seconde partie de l'émission. Et pour terminer, on a également nos deux chroniqueurs de l'avant-scène aujourd'hui dans nos studios, Léni et Nour. Donc ils ne sont pas encore devant les micros, mais ils sont bien en notre compagnie. Et donc on les retrouve en fin d'émission pour la chronique de l'avant-scène. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui, on est nombreux et en fait ça fait vraiment plaisir. Je le disais tout à l'heure, donc Diaoumba Diaby et Diaraï Touré, vous êtes avec nous. Vous avez créé donc l'association Les Étoilés Solidaires en 2023. Et donc cette association a pour but d'apporter son aide en Guinée-Conakry pour la scolarisation, pour garantir un accès aux soins, pour lutter contre la malnutrition. Et en fait, l'idée, c'est de répondre au maximum de besoins que vous pouvez constater sur place. C'est bien ça?
C'est ça. Oui, tout à fait. En fait, on est parti d'une constatation qu'on avait faite lors de nos vacances en 2022 en Guinée-Conakry. Alors on était parti à plusieurs jeunes lavalloises, dont moi et Diaoumba, et on s'est rendu compte qu'une grande partie de la population avait des difficultés d'accès donc aux soins, à l'éducation, etc. Et nous, on se sentait obligés en quelque sorte d'apporter au moins notre aide, même si c'est qu'une petite aide, à cette population-là, en fait, en quelque sorte.
Donc ça a commencé par des constats que vous faisiez donc en vacances.
C'est ça.
Mais ensuite, il y a également eu un stage, parce que donc, vous étiez étudiante en BTS.
SP3S,
c'est ça. Et donc, lors d'un stage dans un orphelinat en Guinée, vous avez eu cette idée qui a commencé vraiment à se renforcer, de créer cette association.
Ouais. Déjà, juste au sein de l'orphelinat, voir ces enfants-là, ça fait quelque chose. Et ensuite aussi, les mêmes constatations qu'on a fait en 2022, toujours l'accès à l'école. J'ai aidé dans des villages, donc là-bas, ils aident leurs parents dans les marchés, donc ils ne sont pas à l'école. Donc c'est surtout, de ce que j'ai compris, il y a énormément d'écoles publiques, mais il n'y a pas de fourniture scolaire, ils n'ont pas de sacs, c'est vraiment matériel en fait. Donc... venu de là, surtout.
Donc à partir de ce moment-là, l'idée de créer l'association, cette association, vous l'avez créée seule ou alors est-ce que vous avez été accompagnée, notamment peut-être dans le cadre de la formation?
Oui, alors en fait, il y a moi, donc moi je suis la vice-présidente, Diaoumba, et le co-président qui est Amadou Diaby. Ce qui s'est passé, c'est que le 28 décembre 2023, il y a eu une grosse incendie dans l'un des quartiers de Conakry qui est Kaloum, où il y a eu 24 morts et plusieurs blessés, et dont beaucoup de familles qui n'avaient plus de logement aussi. Et l'idée déjà d'une association germait en nous, et tout s'est accéléré suite à cet incendie-là. On a eu beaucoup, beaucoup de dons, donc beaucoup d'aide de la part de beaucoup de Guinéens, parce que c'est vrai que la Guinée va avec la solidarité, surtout les Guinéens de Laval principalement. Et pour nous, c'était une obligation en fait, d'aider ces gens-là. Donc grâce à ça, grâce aux dons, on a pu faire énormément de colis alimentaires, on a pu apporter énormément de soins, grâce à Amadou qui était aussi sur place à ce moment-là. Et tout s'est accéléré à ce moment-là. Et en fait, on s'est dit en début 2023, on a fait quelque chose, une première action. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour aider la population? Donc malheureusement, en Guinée, on a besoin d'aide un peu partout, dans tous les secteurs, dans tout. Et on ne pouvait pas. On est jeune, on a 23 ans, on ne peut pas être partout. Donc on s'est appuyé sur beaucoup de bénévoles, qui sont actuellement au sein de l'association et qui sont en Guinée. Donc en fait, ils ont l'œil sur tout ce qui se passe là-bas. Donc on les a interrogés en leur demandant qu'est-ce que vous avez besoin. Et on a Zeyna Thiam qui est journaliste en Guinée.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous avez également une journaliste guinéenne qui fait partie de l'association.
Ça nous ouvre des portes parce qu'elle a des bons contacts là-bas, dont le ministre de l'Éducation.
D'accord, donc oui, c'est ça. Parce que peut-être le principal défi quand on est une association, par exemple la Valoise, pour pouvoir intervenir dans un autre pays, c'est d'avoir justement tous ces contacts sur place pour avoir un moment, une sorte de réseau, faire du lien.
Ça nous a beaucoup aidé. Ouais.
Ouais. Et pour pas être éloigné aussi de la réalité, parce que nous, on vient avec nos airs d'Européens qui avons grandi en France, en voulant aider tout ce qui se passe là-bas. Mais c'est vrai qu'eux nous aident à temporiser, à nous dire non. Déjà, avant même d'aider les élèves, il faudrait peut-être leur apporter ne serait-ce que des cahiers, des fournitures scolaires, avant d'aller un peu plus loin. Donc, eux, ils nous aident aussi à temporiser et de savoir qu'on peut aller petit à petit et peut-être...
Et puis, quelles sont les priorités, finalement?
C'est ça.
On n'imagine pas forcément de notre place à nous.
Nous, on a tout est acquis chez nous. Hein, donc, malheureusement, quand nous, on vient là, on a déjà un savoir. Et c'est vrai que quand on discute avec ces gens-là, donc les bénévoles de l'association, ils sont... Non, il n'y a pas que ça, en fait. Vous avez réussi à peut-être avoir accès aux mathématiques, par exemple, je ne sais pas, comme matière, non, ces gens-là n'ont pas forcément appris cette matière, par exemple. Donc, ça nous permet aussi de connaître les priorités.
Et puis, du coup, de savoir par quel projet il faut commencer.
Oui.
Quelles actions concrètes, pour l'instant, ont pu être mises en place? Donc, vous nous avez parlé de l'incendie, justement.
C'est ça.
Vous avez récolté des dons à ce moment-là?
Oui, énormément de dons. Donc, ça se levait à hauteur de milliers d'euros. Oui. Et suite à ça, on a aussi voulu aider d'autres populations qui étaient dans le besoin, mais hors de cet incendie-là. Donc, on avait aidé des personnes dans le besoin qui étaient handicapées.
C'est ça.
Donc, derrière la mosquée Faisal.
Cité de la Solidarité, c'est
ça. Cité de la Solidarité en Guinée. Donc, ça jouait bien. Donc, c'est en fait un centre pour des personnes handicapées qui n'ont pas forcément beaucoup les moyens. Donc, on leur a apporté des colis alimentaires. Et là, l'idée, ce serait peut-être d'aider des populations dans la sous-région, en Guinée. Donc, nous, on vient de village, donc nos parents ne viennent pas de la capitale. Mmh. Et l'idée, ce serait peut-être d'aider un petit peu ces gens-là aussi de notre côté.
Et donc, au niveau de l'organisation, comment vous arrivez à faire, emmener ces colis, tous ces dons que vous récoltez jusqu'à là-bas? Comment ça doit être complexe, ça aussi?
Oui, énormément. Mmh. Du coup, c'est pour ça qu'on a créé cette association-là en France aussi, pour... avoir une aide qui nous permettrait de prendre des colis ici et de les envoyer là-bas, parce que c'est vrai que c'est très compliqué.
C'est coûteux surtout, ça coûte cher.
Ouais, c'est vrai. Donc c'est vraiment ça la principale idée. Pour l'instant, c'est surtout une aide financière. On demande à nos bénévoles de l'association de payer du coup les denrées alimentaires sur place.
D'accord.
Et du coup, ils nous envoient tout ce qui est photos, vidéos, tout ça pour, pour bien nous montrer que c'est bien fait, quoi.
Et donc, vous vous rendez également sur place, ou est-ce que c'est vraiment un échange à distance pour le moment?
On aimerait se rendre sur place, déjà pour évaluer les besoins aussi, de voir de nos propres yeux. Et on aimerait aussi, par exemple, si on récolte des fournitures scolaires, aller les distribuer de nous-mêmes. Donc voilà, ça serait ça le but.
Donc aujourd'hui, vous recherchez peut-être encore des bénévoles pour vous soutenir. Comment est-ce qu'on peut vous soutenir, même peut-être financièrement ou avec des dons, toujours aujourd'hui?
Oui, toujours, parce que malheureusement, les dons, ça sera jamais, on ne peut jamais s'en accommoder. Et donc oui, il faudrait nous solliciter via nos pages Facebook et Instagram, où on a nos PayPal notre PayPal qui est en place, et on peut faire des virements bancaires ou quoi que ce soit.
C'est ça. Et on a mis en place aussi des adhésions via Eloasso.
D'accord.
Donc on a un lien Eloasso, ça explique un peu le but de l'association, tout ça.
Donc je rappelle le nom de l'association, les Étoilés Solidaires.
C'est ça.
Aujourd'hui, vous avez combien de bénévoles qui font partie de cette association?
Alors actuellement, on en a 7.
7,
ouais. En Guinée.
En Guinée.
Ils sont tous en Guinée.
Ouais. C'est ça.
Et alors le prochain projet peut-être que vous comptez mettre en place?
Oui. Pour nous aider, par exemple, on va récolter des fournitures scolaires ou des vêtements. Donc, il faudra nous aider pour les tris, pour la mise en place des cartons, tout ça. Donc, on aura besoin de bénévoles, bien sûr.
Oui, demain, prêter main forte directement sur place dans les différents...
C'est ça. Mais en ce moment, on recherche aussi un local pour pouvoir stocker les dons. Du coup, on est sur ça.
D'accord. Bon, eh bien, écoutez, si ça fait écho à un de nos auditeurs, on espère qu'il vous contactera prochainement.
Avec plaisir.
Donc, sur les pages Facebook et Instagram c'est pour ça. Le moment, les étoilés solidaires.
C'est ça.
Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci.
Je propose une petite pause musicale maintenant. Eh bien, on passe un bon moment avec Stromae et son titre « Santé ».
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Qui ne célèbre pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires. Aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Et donc on commence l'actu en bref avec Lucie.
Et oui, pour commencer, chers auditeurices, Olivier Richefou, président du conseil départemental et du SDIS de la Mayenne, a décidé de facturer les hôpitaux publics pour couvrir le transport des patients par les pompiers, ce qu'il estime être un surcoût dû aux fermetures répétées des services d'urgence. Olivier Richefou, justifie cette situation en estimant que les urgences seraient mal organisées, ce qui aurait entraîné des transports excessifs par les pompiers. Et attention, la facture est salée, c'est non moins de 70 000 euros qui sont demandés aux hôpitaux, sauf que ni eux ni l'ARS n'ont les moyens de s'acquitter d'une telle somme. Du coup, le président du conseil départemental va demander au ministère de la Santé de prévoir des lignes budgétaires supplémentaires pour le remboursement. Pour rappel, de son côté, l'ARS avait communiqué en décembre n'avoir aucune volonté de fermeture des urgences dans le département de la Mayenne, mais l'agence avait également expliqué un besoin de coordonner l'organisation entre les 3 établissements hospitaliers et leur ouverture, et ce, à cause d'un manque très important de personnel. Allez, vous le savez, alors je ne vais pas à nouveau m'étaler dessus, mais les syndicats agricoles, dont la FNSEA et les jeunes agriculteurs, continuent leurs revendications et leurs actions. Parmi elles, ils prévoient mercredi 31 un emmurage avec des pneus de différents services de l'État à Mayenne, le centre des impôts, à Laval, la cité administrative, et à Château-Gontier, le centre des impôts à nouveau. De leur côté, les chauffeurs de taxi ont aussi des revendications un peu partout en France, dont à Laval. Ils organisent des opérations escargots ce lundi matin. L'objet de leur manifestation concerne le transport sanitaire, c'est-à-dire le transport des malades, on y retourne. C'est l'assurance maladie qui avait établi des tarifs à appliquer dans cette situation et les manifestations réclament une renégociation de ces tarifs. Une autre de leurs craintes est d'être contraint au covoiturage de patients, sachant que près de 15% des trajets seraient déjà partagés. Allez, un peu de sport avant de terminer ces brèves. C'est cette semaine que le premier festival du journalisme sportif en France va se tenir à Laval, les 31 janvier et 1er février. Différents acteurs du sport et journalistes seront réunis pour célébrer le rôle du sport dans les médias et débattre autour de ce métier. On termine sur une pratique sportive très spécifique, c'est la pêche no-kill, carnassier. Si vous êtes un peu anglophone, vous avez peut-être deviné qu'il s'agit en fait de pêcher avec une remise à l'eau obligatoire et seulement avec des leurres artificielles ou à la mouche pour ne pas blesser le poisson. C'est une pratique qui est très demandée par les jeunes, la nouvelle génération de pêcheurs, et ça y est, depuis ce mois-ci, un parcours de pêche no-kill existe donc dans le nord Mayenne, entre Mayenne et Moulay. Et côté météo, on reste stable sur tout le territoire, autour de 11-12 degrés avec quelques nuages, mais il y a de la lumière malgré tout. On redescend ce soir avec des températures à 8-9 degrés et puis quelques pluies éparses ou de la brume dans l'est du département comme à Évron par exemple. Et demain rebelote avec 9-10 degrés et des pluies éparses le matin, puis l'après-midi des températures entre 10 et 12 degrés et un ciel très nuageux. Petite lueur d'espoir par contre, puisque même si les températures redescendent jusqu'à 3-4 degrés dans la nuit, voire 1 degré à Mayenne, eh bien le ciel va se dégager tout doucement dans le nord-ouest du département. Allez Corentin, il se dit qu'il faut tenir bon, on revoit un peu de soleil, alors ça va faire.
Ça s'est passé ce week-end en Mayenne et dans l'ensemble des Pays de la Loire. Lucie, tu t'es particulièrement intéressée à ma région virtuose. Et alors, il y avait bien évidemment les concerts qui ont lieu ce week-end, mais pas seulement, dis-moi.
Et oui, ma région virtuose, c'était 150 concerts dans tous les Pays de la Loire. Il y a eu, pour vous donner une petite idée, à peu près 65 000 spectateurs dans toute la région qui se sont rendus à tous ces concerts. Il y en a eu 5970 à Laval et puis il y en a qui ont pu profiter de la musique dans les TER, dont le TER entre Nantes et Laval, la semaine qui a précédé ce week-end. Et nous, évidemment, on a pris le train avec eux, on y va.
Bienvenue à bord du TER Aléop à destination de Rennes. Il desservira Ancenis, Angers-Saint-Lô, Sablé, Laval, Vitré.
Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ.
On va poser nos boîtes et puis bon, on peut faire un premier moment musical ici.
Bonjour, je suis Nicolas Herouette, je joue le saxophone baryton au sein du Quatuor Ellipsos et je suis aussi professeur de saxophone au Conservatoire de Nantes.
Alors là, vous venez d'offrir un moment de musique aux passagers du TER entre Nantes et Laval avec vos élèves. Comment c'est déjà pour commencer de jouer dans un train ?
Alors c'est une expérience assez unique, assez inédite parce que déjà pour nous, nous on est habitués à jouer dans des salles où les gens viennent nous voir. Là, aller, c'est la démarche inverse où c'est les musiciens qui vont à la rencontre du public. C'est déjà une démarche complètement unique pour nous. Et puis, ne serait-ce qu'au niveau physique, au niveau tenir debout pendant les virages, c'est pas toujours évident, mais c'est très intéressant. Et puis, pour les élèves, c'est aussi une manière de leur montrer que pour être musicien aujourd'hui, il faut être tout terrain.
Et vous faites partie du Quatuor Ellipsos. Vous êtes un quatuor qui a un répertoire très très varié. D'habitude, quand on parle de saxophone, on pense plutôt au jazz.
Alors c'est vrai que le saxophone a été accaparé par le jazz pendant des décennies, mais à l'origine il a été créé pour la musique militaire, la musique d'orchestre, la musique de fanfare. Et puis il y a certains compositeurs quand même de musique classique qui s'en sont emparés, comme Maurice Ravel, comme Berlioz. Et en fait il y a tout un répertoire original déjà qui existe, qui est peu connu, mais que nous on défend beaucoup avec le Quatuor Ellipsos. Et également on fait aussi des arrangements, des transcriptions pour adapter des morceaux de musique classique pour le quatuor de saxophone.
Et alors pour continuer sur votre quatuor, parmi les choses que vous essayez de mettre en valeur, il y a aussi les femmes compositrices, il me semble.
Exactement, il y a 3 ans déjà, on a sorti un disque autour de la compositrice Fernande de Cruc, qui était organiste, professeure de composition, notamment d'Olivier Messiaen. Elle a écrit beaucoup, beaucoup pour saxophone, parce que son mari était clarinettiste et saxophoniste américain. Et donc elle a écrit une grande variété de répertoires pour cet instrument, pour saxophone et piano, et aussi beaucoup pour quatuor de saxophone. Et en fait, notre éditeur nous a fait découvrir cette musique. On est tombés amoureux et ça nous a donné l'idée d'en faire un disque.
Vous, on le disait tout à l'heure, vous êtes justement très diversifié. Est-ce que c'est en fonction de l'instrument qu'il faut se spécialiser ou...
Alors c'est en fonction de l'instrument, puis en fonction de l'envie du projet artistique qu'on veut défendre. C'est vrai que de par notre instrument, le saxophone qui est présent dans tous les univers, et par rapport à nos 4 personnalités avec le Quatuor Ellipsos, où on s'inspire de plein de musiques différentes, enfin on écoute plein de musiques différentes chez nous, ça fait que on se nourrit de plein d'univers différents, que ce soit le classique, le jazz, la pop, la musique contemporaine aussi qu'on défend aussi. On s'empare de tout ce dont on a envie.
C'est super parce que ça nous ramène un peu à la réalité. On sort de notre bulle un peu. Dans le train en général, on est sur nos téléphones ou dans un livre. Ça fait une sorte d'unification entre guillemets entre tout le monde. Et surtout, j'ai pas l'habitude d'écouter par exemple des instruments avant dans ma playlist. Et je trouve que ça permet de découvrir d'autres musiques que j'aurais jamais écoutées de moi-même. Enfin, en tant que la culture comme ça, elle peut se développer et qu'elle est au goût de tout le monde, elle peut être mise à portée de tout le monde. C'est une bonne chose.
C'était une bonne surprise parce que je prends très rarement les transports en commun et ça pourrait presque me réconcilier avec cette idée-là.
J'avais jamais vu. J'aime beaucoup, moi, la musique des pianos dans les gares. Et là, c'est formidable. Après-midi en musique, il n'y a rien de mieux.
Je m'appelle Casilde, j'ai actuellement 16 ans et je suis élève au Conservatoire de Nantes en classe de saxophone.
Là, vous venez de donner avec d'autres élèves et votre professeur un concert assez original dans le TER. Qu'est-ce que ça fait de donner un concert comme ça devant un public qui ne s'y attend pas ?
C'est assez marrant. Dans un premier temps, on peut être un peu mal à l'aise parce que les gens ne sont pas forcément... ils ne nous attendent pas, donc on ne sait pas trop où se placer, comment faire pour ne pas tomber, tout ça. Et puis au final, on arrive à prendre ses marques et un peu s'amuser. Donc c'est une question de partage. Et puis des retours que j'ai eus, ils sont plutôt contents d'avoir de la musique dans un endroit où d'habitude c'est le silence. Et puis nous, on est contents de trouver un nouveau public qui apprécie ce qu'on fait. Ce matin, j'ai joué avec mon quatuor de saxophone dans d'autres TER. Le Quatuor Isar, où on a un objectif de continuer plus tard tous les 4.
Je suis élève au Conservatoire de Nantes et mon professeur est Nicolas Herouette, donc qui est au Quatuor Ellipsos. C'est très étonnant, je pense, pour le public qui nous écoute, parce qu'ils ne s'attendent pas forcément à ça, qu'on vienne vers eux et pas que ça soit le contraire, parce qu'ils ont peut-être parfois des problèmes d'argent ou quoi que ce soit. Et c'est aussi une bonne initiative de la part des musiciens et pour la culture au final.
Lamour sont avec nous aujourd'hui pour la chronique de l'avant-scène. Donc vous êtes là depuis le début dans nos studios, mais vous vous êtes avancé devant les micros. Bonjour Léni, bonjour Nour.
Bonjour.
Et donc Nour, c'est toi qui commence cette chronique aujourd'hui.
Et oui, donc tout d'abord je vais vous faire un petit rappel du programme. Donc cette semaine on a deux sorties nationales, donc le mercredi 31 janvier. Donc on va avoir La Ferme des Bertrands qui est un documentaire, ainsi que L'Étoile Filante qui est une comédie un peu décalée. On a également deux ciné-clubs lors de ces deux semaines de programme. Donc le premier, ce sera samedi 3 février, ce sera le film House. Et le deuxième sera vendredi 9 février à 22h15 et c'est Psychose. On a également un ciné-rencontre le dimanche 11 février avec L'Instant de Rémi Charbonnel et en compagnie des films L'Imagier. Et enfin, je rappelle que nous avons l'inauguration du cinéma le 2 février, pendant laquelle nous diffuserons deux films. Le premier sera Quitter la nuit, et ce sera une avant-première, et nous aurons aussi J'aime à la fureur. N'hésitez pas à venir nombreux, nous vous attendons, lors de cette inauguration. Aujourd'hui, je vais aussi vous parler de notre film Jeunesse, qui sera ce dimanche 4 février à 10h dans notre salle. Ce film, c'est Ivan Tsarevitch et la princesse changeante, un film d'animation signé Michel Oslo. Michel Oslo, vous le connaissez sûrement pour ses films Kirikou, Azur et Asmar ou encore Prince et Princesse. Donc pour Ivan Tsarevitch et la princesse changeante, on va se rapprocher de Prince et Princesse. Si vous ne connaissez pas, l'idée c'est de mettre différents courts-métrages en un seul film par le biais de trois personnages qui décident de créer des petits films. Donc ces quatre courts-métrages que nous verrons sont réalisés avec des personnages qui sont tout noirs et qui ne permettent pas de faire réellement de différence entre eux, excepté pour la forme du visage, la voix et la forme des vêtements, car on ne voit pas de couleur sur les personnages mais seulement les yeux et des fois quelques éléments décoratifs sur leurs vêtements comme des bijoux. Donc les personnages sont comme des ombres, tandis que les décors vont être très colorés. Il y a très souvent une teinte principale par endroit où se trouvent les personnages. Sur l'affiche de notre film, par exemple, la teinte sera rose. Donc il y a vraiment ce contraste entre les personnages qui n'ont quasiment aucune couleur et le paysage derrière eux qui, lui, est plein de couleurs un peu oniriques. Donc les quatre courts-métrages dans ce film seront La maîtresse des monstres, L'école sorcier, Le mousse et sa chatte et enfin Ivan Tsarevitch, et la princesse changeante. Pour les quatre, on retrouve l'univers magique qui est capable de créer Michel Oslo avec des monstres plus ou moins effrayants et qui nous happe profondément. Et pour la petite anecdote, Léni m'a appris qu'Ivan Tsarevitch était un conte. Et en effet, c'est un héros populaire du folklore russe dont Michel Oslo s'est sans doute inspiré. Cependant, la princesse changeante, elle, n'existe dans aucun conte ou ballet russe dans lequel apparaît Ivan Tsarevitch, excepté ce film qui sera à l'avant-scène dimanche 4 février à 10h.
Merci Nour. Léni, toi, de quoi tu nous parles aujourd'hui ?
Eh bien moi, je vais vous parler un peu de la deuxième semaine, donc du 7 au 13 février, où on va avoir en sortie nationale le film Green Border, qui traite de la crise frontalière traversée par la Biélorussie depuis 2021, et du film A Man, qu'on a en nouveauté à partir du mercredi 7 février. A Man, c'est un film japonais sorti au Japon en 2022, mais qui sort tout juste en France. C'est une réalisation de Kei Ichikawa, que l'on ne connaît pas trop ici. Ses autres films n'ayant probablement jamais eu de sortie internationale. Alors pourquoi A Man arrive jusqu'à chez nous? Eh bien, au Japon, il existe des récompenses cinématographiques équivalentes aux Oscars américains ou aux Césars français. Ce sont les Japan Academy Prize. Et A Man en a remporté 8, notamment ceux du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur. Finalement, je ne peux pas donner autant de crédit que ça à un tel succès puisque je n'ai pas encore vu le film. Néanmoins, j'ai ma petite explication de pourquoi un tel engouement. A Man est l'adaptation du roman éponyme de Keiichiro Hirano, une œuvre qui traite du phénomène des évaporés, communément dénommé Jōhatsu. Chaque année, on estime qu'environ 100 000 personnes disparaissent volontairement au Japon, abandonnant leur famille et leurs proches derrière elles. Les raisons derrière ce désir de disparition sont nombreuses et diverses. Il s'agit souvent d'un besoin de fuir un quotidien anxiogène, une situation familiale compliquée ou des dettes impossibles à éponger. Ce phénomène n'est pas nouveau. En 1967, le film « L'évaporation de l'homme » de Shohei Imamura mettait déjà en scène une femme sur les traces de son fiancé, évaporé dans la nature. Et pour rappel, Shohei Imamura, c'est pas n'importe qui. C'est un réalisateur doublement palmé et qui est largement considéré comme le chef de file de la nouvelle vague japonaise. Tout ça pour dire, que le phénomène autour duquel A Man tourne est un réel sujet de société, qui plus est, multigénérationnel. En plus de ça, le film dépeint des réalités sociales encore peu montrées au Japon, comme le personnage d'une mère célibataire qui se remarie ou encore le racisme envers les Coréens dans la société japonaise appelée Zainichi. Le réalisateur souligne « Ce que vous voyez dans ce film est le véritable Japon d'aujourd'hui. Dans le cinéma japonais, il y a eu une tendance à éviter les questions sociales, mais pour ma génération, j'ai l'impression que cela change un peu. Je voulais faire un film qui se déroule dans le monde réel, assailli par des problèmes complexes, dans lequel l'intime et le collectif sont imbriqués. » Côté influence, Kei Ichikawa a étudié en Pologne. Son cinéma est donc nourri de références type Krzysztof Kieslowski, mais il cite également les grands films d'enquête d'Akira Kurosawa ou Tomu Uchida, dont l'influence affirme l'héritage prospère de l'âge d'or du cinéma japonais. Pour conclure, je pense que c'est un film important. Sans même se poser la question d'une ou des qualités cinématographiques, le sujet traité peut parfois porter seul l'intérêt du public pour le film. C'est un peu le dogme du cinéma social, finalement, écraser la question artistique par une question sociale, mais honnêtement, au regard des commentaires du metteur en scène sur son propre film, ce dernier tend probablement plus du côté Koreeda Kyoshi Kurosawa que du côté Ken Loach, et en même temps, c'est un film japonais, et les thématiques socio-culturelles impliquées sont déjà décrites par de grands cinéastes depuis des décennies. Même si, comme Ichikawa le rappelle, ce n'est que depuis le début des années 90 que le cinéma japonais se pose sincèrement des questions, et sans détour, sur le politico-social.
Merci Léni, merci Nour. C'est toujours un plaisir de vous accueillir dans l'émission un lundi sur deux. Tu as quelque chose à ajouter, Léni?
C'était juste pour rappeler qu'on accueille du 9 au 13 février la semaine du cinéma européen en collaboration avec la Maison de l'Europe.
C'est tout. Ok, super, merci pour cet ajout. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à Diaoumba, Diaby et Diaraï Touré de l'association Les Étoilés Solidaires d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci donc à Nour et Léni de l'avant-scène. Et bien sûr, merci à toi, Lucie, de m'avoir accompagnée tout au long de cette émission. L'agité du local, c'est fini, mais ça continue sur l'autre radio et la soirée commence à 19h avec Solénoïde.
Tout à fait, et pour commencer en douceur la semaine, Solénoïde propose un voyage, et pas n'importe lequel, c'est un voyage cinématographique et ethnique.
Et ça continue en musique à 20h cette fois.
Avec la discothèque de Pierre.
Eh bien, on reste à l'écoute alors sur l'autre radio. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission de l'Agité du local. Nous serons accompagnés de Jean-Guillaume Nardi du Centre équestre de Biernay, l'Écrin du Plessis. On se retrouve demain donc à la même heure, 12h15 et rediffusion à 18h15. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, vous le savez, faites le bien.
Tu sais, Mimi, quand je commence l'Agité du local, j'aimerais que ça s'arrête jamais.